Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, on vous raconte l'histoire de Darwin et des animaux qui ont inspiré sa théorie de l'évolution avec un autre sociétaire de la curiosité. Bonsoir Marc Giraud.
Bonsoir à tous.
Ça va bien ?
Bonsoir Marc.
Allez, d'un petit mot pour nous donner envie là. Pourquoi vous adorez tant Charles Darwin ? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ?
C'est son contact avec l'universel. Tout faisait partie de la vie, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun racisme, hein, il était anti-esclavagisme, aucun sexisme. Pour l'époque, il disait des choses sur la force des femmes ou des femelles, qui étaient très importantes, et même aucun spécisme. Ça, c'est un mot très à la mode, puisqu'il considérait que les hommes et les animaux faisaient tous partie de la même famille. Donc, il était très moderne, et il n'a pas fait que ça.
Est-ce qu'il portait des chemises avec des animaux, comme vous?
Oh, il était très sobre.
D'accord. Allez, c'est lui qui vous inspire.
On va découvrir comment cette observation de la nature et des animaux l'a mené à la théorie de l'évolution. Charles Darwin sur RTL.
RTL. L'origine de la vie et son évolution sur Terre. Un mystère qui fascine l'homme depuis toujours.
Jusqu'à 22h.
Le vivant se serait progressivement modifié depuis son apparition.
Blanc comme un linge. Descend du singe.
Par quel mécanisme s'opère cette évolution? Quel facteur détermine une extinction?
La curiosité est un vilain défaut.
C'est Charles Darwin avec sa théorie de la sélection naturelle qui résoudra au 19e siècle une partie de l'énigme.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et sur RTL, on part donc sur les traces de Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, avec le naturaliste Marc Giraud. Marc, on va d'abord peut-être situer un peu l'époque et le personnage. Alors, quand vit Charles Darwin et quel est son métier ?
Il est né en 1809. Il sort d'une famille assez, aisée, assez brillante. C'est un peu l'élite. Comme je disais tout à l'heure, ils sont anti-esclavage. Enfin, ils ont des idées un petit peu novatrices sur l'époque.
Ouais.
Ils sont riches. Donc, ils ne sont pas obligés de travailler. Donc, il a tous ses loisirs. Toute son enfance, il l'a fait à courir dans la campagne avec ses chiens, à observer la nature, justement.
Famille de médecins, il sera...
De médecins.
Il sera médecin ou pas ?
Alors, il est voué à être médecin, mais le problème, c'est qu'il n'aime pas beaucoup le sang. Comme son père, d'ailleurs.
Ouais.
Il n'aime pas le sang. Et à l'époque, il n'y avait pas encore d'anesthésie. Et au cours de ses études, il a assisté à deux opérations sans anesthésie, dont une sur un enfant. Et c'était quelqu'un de très sensible. Et c'est ça que j'ai voulu mettre dans mon livre, parce qu'on n'en parle jamais. Quand on parle de Darwin, on parle de philosophie, de théologie, on parle de la génétique, on ne parle jamais de l'homme lui-même. Et sa sensibilité aux animaux, par exemple, qui a été primordiale, parce que dans sa formation, alors évidemment, il a fait des études de médecine au début, il a été aussi formé à la taxidermie, c'est-à-dire empailler les animaux, par un esclave affranchi, un noir, qui lui racontait des histoires de jungle exotique qui le faisait rêver, et qui lui a montré aussi que parler à un noir, parce que il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, on rencontrait quelqu'un d'aussi intelligent qu'un blanc, et ça lui a peut-être aussi ouvert l'esprit à ce niveau-là.
Marc Giraud, vous publiez 50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin, c'est aux éditions Librio, et vous racontez que c'est un passionné Darwin, un passionné de nature. Depuis l'enfance, il observe, il manipule tout ce qui l'entoure. Par exemple, des scarabées. Que lui arrive-t-il un jour où il en trouve des rares sous l'écorce d'un arbre?
Il adorait les coléoptères. Et un jour, il en trouve deux. Donc, il en prend un dans chaque main. Et il y en a un troisième. Et le troisième, c'est un scarabée péteur. C'est-à-dire que c'est un coléoptère. Pour se défendre, il lâche un acide très violent. Et ce jeune Darwin, qui était vraiment un passionné, au lieu de le prendre dans la main, il se le met dans la bouche parce qu'il avait que deux mains et il voulait les trois. Donc le scarabée lui a explosé dans la bouche, lui a brûlé la langue pour des semaines.
Ooh.
Et dans son autobiographie, Darwin ne regrette qu'une chose, c'est qu'il a perdu un des spécimens de la collection.
Ah
voilà.
Oui.
C'est tout à fait lui, quoi. Oui.
Alors il aime aussi les récits de voyageurs, il suit des cours de botanique, etc., etc. Et comme il aime les voyages, il décide de s'embarquer. On est le 27 décembre 1831, il a 22 ans, à bord du Beagle. C'est quoi sa destination ?
Alors, c'était l'Amérique du Sud, hein,
oui.
Et lui, il était là juste pour tenir compagnie au capitaine qui s'appelle Fitzroy, et c'est tout. Et en fait, il était plus ou moins naturaliste, mais c'est tout. Et en fait, il s'est avéré que ce voyage a été tellement formateur. Lui, qui n'était pas trop sorti de sa campagne anglaise, il a assisté à des éruptions volcaniques, il a rencontré des cannibales, il a affronté des révoltes d'Indiens. Il a vécu un tremblement de terre qui l'a vraiment secoué, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il s'est aperçu que la terre pouvait bouger, que ses certitudes pouvaient être ébranlées aussi. Il a dit, mais en quelques instants, ça fait plus que des années de philosophie.
Et puis, Charles Darwin, aussi, dans ce voyage, a rencontré des animaux comme le nandou d'Amérique. Comment il l'a rencontré pour la première fois? Et puis, vous allez nous expliquer ce que c'est.
Ah, c'est très curieux. On l'appelait l'autruche à l'époque parce que ça ressemblait à une autruche. Il y en avait une espèce connue. Et une autre qu'avait vue un voyageur avant lui, un Français, Alcide d'Aubigny, qui avait décrit cette espèce bizarre. Et il rêvait, évidemment, parce que quand on est le premier à attraper un animal, en général, on donne son nom et on est le premier. Quoi. Voilà, c'est toujours une aubaine.
Comment il le rencontre pour la première fois ?
Il n'arrivait pas à l'attraper. Personne ne l'attrapait. Et un jour, en mangeant, il s'aperçoit que dans son assiette, c'est quand même un animal bizarre et il demande au cuistot de lui montrer les restes. Et là, effectivement, c'était l'animal qu'il cherchait depuis longtemps, qu'il était en train de manger. Donc, ils sont dépêchés de reconstituer tout ce qu'ils pouvaient, la tête, une cuisse, toutes les plumes. Ils ont envoyé ça au muséum de Londres et ils ont reconstitué la bête qui s'appelle Rhea darwini, c'est-à-dire le nandou de Darwin.
Ah, quand même !
Oui, il était très fier. Bah, j'imagine. Il était tout jeune, il avait... de l'ambition quand même pour la science, mais aucune notoriété. Et là, il était tout fier qu'on ait donné son nom à une autruche.
Ouais. Et qu'est-ce que cette autruche lui apprend ? Parce que votre livre, c'est une façon de voir comment ces observations de la nature ou des animaux l'ont petit à petit mené sur le chemin de sa théorie.
Oui, j'ai fait comme lui, parce que en fait, c'est une histoire d'animal raconte un petit maillon de la théorie, comme il l'a fait lui-même, finalement. Je voulais faire un truc où on ne se déchire pas le cortex, quoi. Pas de grande théorie, justement, des petites histoires très lumineuses. Et avec ces deux nandous, donc ces deux oiseaux qui se ressemblent beaucoup, qui sont peut-être parents, et c'est le début de la théorie qu'il a mijoté quand même pendant des années, voir des animaux qui sont parents, peut-être qu'ils ont justement un ancêtre commun. Et ça, c'était totalement inédit à l'époque de penser ça.
Et alors, il s'intéresse aussi aux cirripèdes. C'est quoi les cirripèdes ?
Ah, ça. Alors ça, c'est après son grand voyage. Il avait besoin d'une notoriété scientifique, donc il s'est attaqué à des animaux que personne ne connaît, les cirripèdes, et il les a bossés pendant 8 ans. Alors, les cirripèdes, vous savez, quand vous grattez des moules marinières, il y a des petits trucs qui s'accrochent. On croit que c'est des berniques, enfin des crustacés.
Ah oui, chapeaux pointus, fournissant en Bretagne.
On dirait que c'est des mollusques et des coquillages, et pas du tout. Ce sont des crustacés, c'est Darwin qui l'a trouvé, c'est-à-dire des cousins du homard qui passent leur vie la tête accrochée à un support, à battre des pattes pour respirer, pour attraper sa nourriture. Des drôles de bêtes, hein. Donc il a étudié ces crustacés pendant 8 ans jusqu'à en avoir une indigestion, crustacés.
Il découvre un truc un peu particulier quand même, ils sont bien, comment dire ça, dotés par la nature, c'est
ça ? Ah oui, parce que comme ils ne bougent pas pour s'accoupler, il faut bien qu'ils aillent voir les copains, donc ils envoient leur pénis faire les commissions, donc ils ont un pénis géant qui fait à peu près 8 fois la taille de leur corps.
Mais détachable.
Il va faire sa petite mission. Il y a
8 fois la taille du corps. On leur laisse. Franchement.
Non, mais ça existe un pénis détachable justement.
Ah bon ?
Chez un mollusque, oui, chez l'argonaute. Alors lui, il fait 10 fois la taille de son corps. Bravo aussi, Denis. et il envoie carrément son pénis et heureusement ça pousse. Mais là, on dérive. On n'est plus dans le cirripède.
Mais en un mot, ce cirripède, il sert à quoi dans la théorie de l'évolution de Darwin, qu'est-ce qui lui permet de comprendre ? Quelle est la petite touche que ça apporte ?
C'était pas spécialement la théorie, c'était pour asseoir sa réputation, parce qu'il passait des mois et des mois sur une seule espèce. Il écrivait 30 pages. Enfin, vraiment, il a inventé un microscope, il a inventé des termes pour décrire ces animaux, dont on savait même pas que c'était des crustacés, donc il a acquis sa réputation grâce à ça. C'est plutôt ça.
Darwin qui mettra 20 ans à peaufiner cette théorie de l'évolution, de la sélection naturelle, des années d'observation. Tiens, par exemple, les pinsons des Galapagos. On vous les présente dans un instant sur RTL.
On continue de vous raconter, de visiter le bestiaire de Darwin dans la curiosité avec notre naturaliste de terrain préféré, Marc Giraud. Vous êtes un aficionado de Darwin depuis toujours. C'était, comme vous, un amoureux de la nature. Il savait dire « je ne sais pas ».
Et oui, il faut savoir ne pas savoir quand on est un spécialiste. Et c'est ça que j'aime, c'est cet homme, c'est son honnêteté. Et il aimait, son mot magique, c'était irréfutable. Quand il voyait quelque chose, qu'il le prouvait, il disait ça, c'est irréfutable. Et quand il ne comprenait pas, eh ben, il disait je sais pas. Mais n'empêche qu'il a construit, un immeuble, il a construit l'immeuble qui est la science d'aujourd'hui. Et il y avait des chambres vides. Là, il disait je sais pas comment ça se remplit, je sais que ça marche comme ça, mais voilà. Et il a fait l'architecture. Et depuis, on a découvert l'ADN, on a découvert l'hérédité, on a découvert plein de choses et on a rempli toutes les chambres. mais c'est toujours l'immeuble de Darwin.
Et donc, à partir de quand sa théorie de l'évolution, elle commence vraiment à prendre forme ?
Alors, à la publication, en 1859, alors, bon, ça commençait à jaser un petit peu dans les salons, mais là, il en a vraiment parlé. Il y avait 2500 exemplaires, ils ont été vendus dans la journée, ça fait rêver tout auteur. Hein, et il y a eu plein de republications, de traductions, ça a été même un peu déformé dans certains pays. Et là, il a eu sa réputation tout de suite, quoi. Et c'est là que ça a commencé et que le scandale est arrivé.
Oui, mais c'est ça. Et pourquoi il hésite à la publier ? On a raconté tout à l'heure l'histoire de ces chapeaux pointus, là, les cirripèdes. Même sa propre fille était choquée par ce qu'il avait découvert, c'est ça ?
Bah oui, l'histoire des pénis géants, ça l'a choquée. C'était l'époque victorienne, donc elle a refusé qu'on publie cette partie-là des études de son père.
Mais ça choquait les gens, le peuple, les femmes, oui. Certaines femmes, et aussi certains scientifiques ? Pour quelle raison ?
Oui, alors pour rester sur Etty Darwin, sa fille, elle voulait par exemple éradiquer un champignon qui s'appelle Phallus impudique, qui est très suggestif, n'est-ce pas ? Oui. Et elle voulait qu'il n'y en ait plus dans la campagne anglaise. Donc c'est pour vous dire l'état de pudibonderie dans lequel Darwin a publié la sélection sexuelle, par exemple. Il fallait oser mettre le mot sexuel dans un bouquin. Ouais.
Hein. Et vous publiez 50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin, c'est publié chez Librio, ça vaut que 3 euros.
Ah oui, je suis très content que ça vaille que 3 euros.
Et c'est bien parce que c'est un petit bonheur, hein, comme vous dites, on se fait pas une entorse du cortex en le lisant, et on comprend, et surtout on se passionne pour l'histoire de cet homme, et on comprend pourquoi vous l'aimez tant, parce que finalement, vous aussi vous êtes dans la nature tout le temps à observer les animaux. Alors je sais pas si vous êtes allé aussi loin que lui, mais quand il se retrouve au Galapagos, qu'est-ce qu'il se retrouve à observer?
Alors plein d'espèces qui n'existent pas ailleurs, et ce sont des petites îles. Et alors maintenant, on le sait, dans une île, les animaux ont le temps d'évoluer d'une manière très originale, oui. Très différente des autres.
Oui, il y a des espèces qu'on ne trouve que sur cette île, parfois. Par exemple, à Madagascar, il y a énormément d'espèces qui n'existent
qu'on appelle endémiques. Voilà. Et donc, au Galapagos, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les pinsons des Galapagos, les pinsons de Darwin, qui s'appellent en vrai des géospismes. Enfin, un pinson, disons pinson. Donc, il les a récoltés, et c'est ça qui a fondé un peu la théorie, enfin, dans les esprits des gens, parce que sur place, c'est un peu une légende, cette histoire-là.
En fait, il ne s'en occupe pas tout de suite, c'est
non,
ça
Non, il est fatigué, c'est la fin de son voyage. Ouais. Autant il était passionné de chasse au début, autant il voulait plus toucher un fusil, et voilà. Et il a laissé faire son aide qui a récolté ses pinsons, qui les a envoyés à John Good, qui était un grand ornithologue, et qui lui a montré la parenté entre ses pinsons. Et Darwin n'a découvert la théorie que bien des années après avoir publié son truc. Enfin,
qu'est-ce qui était intéressant chez ces pinsons, en fait, pour Darwin, même s'il a mis un peu de temps à les observer ?
Ils sont très différents. Et c'est ça qui prouve la théorie, mais il ne l'a pas découvert si vite qu'il l'a dit. Voilà, c'est ça. Il a un peu truqué les dates.
Mais très différent en quoi, par exemple ?
Par exemple, les becs. Les becs. Ceux qui mangent des graines ont des gros becs, comme des perroquets. Il y en a un qui a un bec très très pointu, qui est presque une sorte de vampire. C'est-à-dire qu'il grimpe sur les gros oiseaux, il les pique et il suce leur sang. Un autre, le géospis cactus, lui, il prend des épines de cactus et il s'en sert pour attraper les termites, exactement comme font les chimpanzés. Mmh. Donc ces animaux qui sont tous de la même famille, qui ont tous le même ancêtre, ont pris des formes étonnamment différentes. Et c'est une preuve vivante de la théorie de l'évolution.
La théorie de l'évolution de Darwin n'est pas née au Galapagos, on dit souvent ça.
Non, voilà, non. C'est ça. Alors, il n'a pas trouvé tout de suite la familiarité entre ses pinsons. C'est Good à Londres qui l'a fait. Donc, dans sa première version de son bouquin, il n'en a pas trop parlé. Et puis, quand il a vu quand même que tout le monde en parlait, là, dans la seconde version de son livre, L'Origine des Espèces, alors là, il a dit, oui, effectivement, au Galapagos, j'ai trouvé ça dès que je les ai lus. Mais ce n'était pas tout à fait vrai.
Ce qui est super, Marc Giraud, c'est dans votre livre 50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin aux éditions Librio, on apprend qu'il a investi beaucoup d'argent et de temps à étudier les pigeons. Alors nous, on fait ça aussi, hein, souvent, même si on n'investit pas beaucoup d'argent, voilà. Ils viennent à nous. Quelle démonstration il tire, Darwin, de cette observation des pigeons ?
Pour prouver que la sélection naturelle existe, il voulait quelque chose d'irréfutable. Et ce qu'il avait d'irréfutable, c'est la sélection artificielle qu'on fait justement avec les vaches, les poules, les pigeons. Là, on voit très bien que quand on marie, par exemple, des pigeons qui sont gris ensemble, ils vont faire des pigeons gris. Si on met des noirs et des blancs, on va faire des marbrés, etc. Et on voit comme ça qu'on fait des lignées d'oiseaux très différents. C'est la sélection artificielle qui est maniée par l'homme.
Et c'était une preuve. Mais il va pratiquer, preuve. Lui, ça,
ouais, c'est... Il va la pratiquer, ouais, pour montrer justement à quel point un animal peut évoluer. Suivant ses caractères héréditaires, suivant sa parenté. Et donc, ça, c'était une preuve que la sélection existe. Voilà.
Alors, Darwin pratique le croisement des espèces. Il va ainsi croiser un labrador et un pingouin. Bon, rassurez-vous, ce sont deux espèces de canards. Ouf, à tout de suite, les curieux sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est en rédigeant ses carnets de voyage que Darwin pose la première pierre de sa théorie de la sélection naturelle.
RTL.
Une espèce s'adapte à son environnement et y développe des caractères spécifiques qui la transforment peu à peu en une nouvelle espèce.
Darwin avait raison, je ne suis plus un primate. Si je suis à quatre pattes, c'est pour les relations. Darwin avait raison.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité, bah non, c'est pas un vilain défaut, c'est une antiphrase, ce type d'émission. C'est
sinon,
une
on est
grande...
vraiment des gros vilains, nous.
C'est une grande qualité, surtout chez Charles Darwin, le naturaliste anglais. Son livre sur l'origine des espèces, publié en 1859, est l'un des plus importants de l'histoire de la science. Tout simplement, c'est ce que nous explique et nous raconte notre naturaliste à nous. Marc Giraud, petit bémol sur la mise en onde de Sébastien Dudy. Qu'est-ce qui était pas tout à fait juste ?
C'est un peu comme Lamarck, il dit que les animaux créent... ce qu'il est, enfin, leur adaptation, la fonction crée l'organe, c'est ça. Lamarck disait, à force de tirer le cou, la girafe a eu un long cou. C'est pas du tout comme ça. Ce qui se passe, c'est que on ressemble à ses parents, mais jamais tout à fait. Et la petite variante vient au hasard. Donc, elle peut être neutre. En général, c'est neutre. Elle peut être négative ou elle peut être complètement positive parce qu'elle correspond à une bonne adaptation à l'environnement. Mais elle vient par hasard.
C'est du hasard, mais c'est quoi le hasard des cellules, c'est ça?
Voilà, c'est la génétique, en fait, qui l'a prouvé. Ouais, ouais. Et c'est ça que l'intuition de Darwin aussi, c'est de dire que, par exemple, la sélection naturelle, artificielle, pour revenir à nos canards, labrador et pingouins.
Ah oui, alors c'est ce qu'on a annoncé tout à l'heure. Voilà. Donc, labrador et pingouins, voilà, sont donc deux canards. Il décide de les croiser, Darwin, c'est ça?
Voilà. Oui. Ça dépend des mutations qui apparaissent. C'est comme le chat nu, par exemple. C'est une mutation qui est apparue. Donc, on a croisé plusieurs chats nus et maintenant, on a une race chat nu.
C'est les chats qui n'ont pas de poils, c'est
voilà,
ça?
Voilà. Mais on ne les a pas créés. On a juste sélectionné artificiellement. Et la nature fait exactement pareil. Par exemple, s'il fait très froid, elle va sélectionner les animaux qui résistent le mieux au froid. C'est une palissade, mais à l'époque, c'était pas évident de comprendre tous ces mécanismes qui font que les espèces évoluent.
Et donc, pour revenir aux girafes, de mutation en mutation, ce sont celles qui avaient le cou le plus long qui sont restées parce qu'elles étaient adaptées à leur environnement, c'est
mais
ça
le cou long est venu par hasard long, c'est ça. Parce que il y a des foultitudes de possibilités dans les petites variantes génétiques. Il y a qu'à regarder justement ce qu'on fait avec des canards. Il y a des canards comme le pingouin. Le pingouin, c'est un canard coureur qui marche tout droit comme un pingouin, justement comme un manchot. Le labrador, c'est un autre genre de canard. Il y en a qui ont des coups très longs, d'autres qui sont multicolores, d'autres qui sont tout gris. Enfin, c'est la variété. Si on laisse faire la nature, il y a une variété énorme. Donc il y a des potentiels au niveau génétique énormes que la nature sélectionne en fonction des contraintes du milieu.
Pourquoi alors il croisait des espèces, Darwin, justement pour comprendre ce que ça donnait, c'est des expériences, quoi.
Pour montrer que la sélection, puisqu'elle existait artificiellement, elle existait aussi naturellement.
Darwin qui publie donc son livre le 24 décembre 1859. Alors le titre complet, c'est « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la conservation des variétés avantagées dans la lutte pour l'existence ».
C'est trop court comme titre. On va pas
il est précis,
c'est un bon
gars.
Titre. Hein. Il en a vendu 2500 le premier jour. Bah, franchement, ils n'étaient pas difficiles. Ils n'étaient pas difficiles. Il hésitait à publier, on l'a dit tout à l'heure.
Oui, il en faisait des cauchemars.
Il sera servi. Oui. Il sera servi parce qu'il y aura des réactions virulentes de qui
il le savait, de l'Église principalement. Il savait ce qu'il allait faire. Pourtant, il a bien fait attention à pas parler de l'homme et ses rapports avec le singe dans son bouquin. Il a fait très très attention à ça parce qu'il savait.
Qu'est-ce qui choque alors le sexe, la reproduction?
Eh ben, à l'époque, après avoir pensé que la Terre était le centre de l'univers, et qu'elle était plate et qu'on était au centre, on continuait de penser qu'on était le seul animal à l'image de Dieu, qui ait une âme et qui soit digne d'intérêt. et de sensibilité, et qu'on était le centre du monde, et que les animaux, c'était quelque chose de très différent. Il y avait l'homme d'un côté, l'animal. Il y a encore des gens qui fonctionnent comme ça entre nous.
Bah oui.
Et en fait, Darwin a montré simplement que les singes et nous, bah, on était tous des primates, et qu'il n'y avait pas de différence au niveau biologique. Et ça, ça a fait mal. C'est-à-dire qu'on est des bêtes.
Eh ben oui, on est des animaux.
À l'époque victorienne, justement, oui. On ne s'y portait pas de parler de sexe ou de choses comme ça, un peu animal. C'était une révélation. Et en plus, il y a Dieu.
Et
l'absence
voilà,
de Dieu.
Le hasard, bah oui. Plus fort que Dieu, finalement, bah oui. Ce que vous décriviez tout à l'heure.
Bah oui, parce que là, avec l'évolution, on est obligé de compter en siècles et en millénaires. Mmh. Et dans la Bible, c'est dit que la Terre a été créée en 6 jours. Donc ça ne correspondait pas du tout au texte, à la Bible, qui n'est pas un texte scientifique, mais il y a des gens encore qui pensent que la création, on les appelle les créationnistes,
ouais.
Continuent de penser que les humains et les dinosaures sont nés en même temps. Mmh. Et il y en a encore pas mal en Amérique.
Oui, bah, ils devraient écouter la curiosité plus longtemps. Hein. Ouais. On nous entend très bien sur RTL.fr. Est-ce que le mot évolution apparaît dans la première édition du livre de Darwin?
Non, il a appelé ça transmutation. Il n'a pas trouvé les mots. Voilà, une légende s'est créée, puis les mots sont restés comme ça. Il y a des mots qui sont un peu médiatiques. Évolution est plus médiatique. Enfin, c'est une manière de parler. Mmh. Donc, c'est venu un petit peu après.
Donc, il y a 3 grandes idées complémentaires dans son livre. Il y a quoi? Variation,
oui.
Environnement limité et sélection naturelle.
Absolument. Donc, la variation, il l'a vu avec les canards, avec les pigeons, tout ça.
Ouais.
Alors, la limitation, il l'a vu grâce à Malthus, qui est un économiste. Vous savez, Malthus, ouais. Le malthusianisme,
ouais, ouais.
Qui était un drôle de type. D'ailleurs, c'était un révérend, mais il disait que comme les pauvres se multipliaient trop, il ne fallait pas leur donner à manger. Voilà. Donc, enfin, bon, Darwin n'était pas du tout comme ça, hein. Il l'a bien dit.
Mais lui, il a mais, compté les éléphants, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, il a transposé ce côté la nature est limitée alors qu'on se multiplie énormément. Il l'a transposé aux éléphants, qui pourtant sont des animaux qui ne se multiplient pas très vite. Il a calculé qu'un couple ferait 15 millions de descendants en 500 ans.
Ça, donc c'était pas possible.
C'est absolument pas possible. Oui. La Terre entière serait remplie d'éléphants. Donc il y a bien un mécanisme qui fait qu'il y en a qui disparaissent. Et c'est ça la sélection naturelle. Donc c'est un des principes.
Allez, un autre livre de Darwin, moins connu, mais tout aussi important. Il décrit les émotions des animaux, là aussi. C'est révolutionnaire. À tout de suite sur RTL.
Les animaux sont dans l'œil de notre curiosité, comme ils sont dans l'œil de notre invité, le naturaliste Marc Giraud, et comme ils étaient dans l'œil d'un géant de la science, Charles Darwin, qui a inventé la théorie de l'évolution dès 1859. Et Marc Giraud, dans votre livre « 50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin » aux éditions Librio, vous racontez comment ses travaux sur l'origine des espèces ont bouleversé son époque, choqué même. Mais il a aussi publié, plus tard, on est en 1872, un autre livre, moins connu mais tout aussi passionnant. Vous nous rappelez son titre ?
L'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux. Et ça a fondé les bases d'une science nouvelle qui s'appelle l'éthologie, la science du comportement. Mais Darwin, il a fait énormément de choses. On pourrait parler des plantes, on pourrait parler plein de choses. Il observait les humains comme les animaux de la même manière. C'est-à-dire qu'il prenait des notes sur ses enfants depuis la naissance, l'éveil, le premier baby, etc. Il notait tout. Il allait au zoo de Londres, par exemple, et il testait les singes, il les chatouillait sous les bras pour les faire rire, par exemple. C'est-à-dire qu'il savait déjà que le rire n'est pas le propre de l'homme, oui. Comme le prétendait Rabelais. C'est des choses dont on parle aujourd'hui en disant l'animal est un être sensible et tout ça. On est juste en train de le découvrir, mais lui, il le savait déjà. Et comme il avait beaucoup de correspondants dans le monde, il savait, par exemple, les chimpanzés utilisaient des outils. Nous, ça a été révélé en 1964 par Jane Goodall. Et lui, il le savait déjà. Donc, il était vraiment précurseur sur beaucoup, beaucoup de choses. Il n'a pas fait que la théorie de l'évolution, qui est déjà le maître livre. Il a fait aussi ça, que moi, qui est pour moi un livre quasiment aussi important. Parce que l'éthologie, le comportement, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. C'est comprendre le langage non-verbal des animaux. Se rendre compte qu'ils sont intelligents, mais d'une manière différente. Et ça, on les a tellement rabaissés pendant des siècles qu'on n'imaginait même pas la sensibilité ou l'intelligence des
animaux. En fait, on aurait gagné du temps dans nos rapports avec les animaux si on avait écouté Darwin plus tôt.
Ah bah oui, 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 parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne l'entendent pas.
Par exemple, il dit que le chat parle avec ses oreilles.
Oui, bah oui, bah on le sait. Les chats, quand ils couchent les oreilles... un cheval, c'est pareil. C'est la plupart des mammifères, parce que les oreilles, c'est un organe très vulnérable. Donc en cas de bagarre, on les couche. Donc, logiquement, quand on couche les oreilles, ça veut dire je suis prêt à la bagarre. C'est simple, mais lui, il a noté ça très, très, très précisément. Il avait une patience. Il faut dire qu'à l'époque, on avait du temps, quoi. 8 ans sur les cirripèdes, il pouvait passer 3 ans sur les plantes carnivores. Enfin, il faisait que ça.
Combien de temps, Marc Giraud, Charles Darwin, a passé à regarder et observer la chair de poule de nos peaux d'humains?
Ah oui, alors ça, voilà, comme il avait deviné qu'on avait des ancêtres velus, ça, il en était sûr. Il disait, quand on a la chair de poule, c'est une relique de quand on hérissait les poils, comme fait un chat qui a peur. Mais c'est toujours vrai. Et c'est lui qui a trouvé ça.
C'est génial. Il s'est dit ça aussi en observant son... Il avait un poulain.
Oui.
Il observe quoi? Les rayures,
les zébrures, du poulain. Et il disait, ça, c'est une marque primitive. C'est-à-dire que, par effet d'hérédité, comme ça, il y a encore des traces quand on croise les canards ou les chevaux, etc. Il y a des choses du passé qui reviennent. Et il était persuadé, il a dit, à mon avis, l'ancêtre des chevaux était zébré. Et depuis qu'il a dit ça, dans tous les livres sur la préhistoire, on voit les ancêtres du cheval, les oïpus, mésoïpus, etc. On les représente toujours zébrés.
Et le chien, là, le chien qui fait... 3 fois le tour sur lui-même avant de s'allonger sur le tapis, ça vient d'où ça?
Ça, c'est un héritage du passé, justement. Le chien, il est domestique, mais il a toujours l'instinct de ses ancêtres. C'est-à-dire que avant de s'allonger dans la nature, on regarde si on n'est pas sur un nid de fourmis, sur des épines ou autre chose. Et un chien, même chez nous, il fait pareil sur son coussin. Et nous, on est un peu pareil aussi, d'ailleurs.
C'est vrai, j'allais le dire. Je fais toujours le tour de mon lit pour voir si tout va bien.
3 fois.
Parfois, quand j'étais petite, je regardais même sous le lit s'il n'y a pas de sorcière. Autre observation.
C'est toujours facile hein, chez Bonnec.
Votre observation signée Darwin, les animaux qui évoluent ensemble ou avec certaines plantes. Ça, c'est passionnant. Par exemple, l'insecte et l'orchidée. On est dans les années 1860 et Darwin va recevoir une orchidée comète. Vous pouvez déjà nous décrire cette plante?
Alors, c'est une orchidée de Madagascar, je crois, qui a un très, 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 très long, une très longue corolle. Et le nectar est quasiment inaccessible. Et lui, il avait déjà repéré les rapports entre... Il a aussi inventé l'écologie, mais ça, j'aurais pas le temps de vous raconter tout ça. Donc, il avait repéré les adaptations réciproques entre les butineurs et les plantes. Il s'est dit, il y a forcément un butineur qui a une trompe énorme, géante, pour aller chercher le nectar.
Donc, il a imaginé un animal qui pourrait faire ça, c'est ça?
Donc, il s'est dit, comme il connaissait quand même la faune d'Angleterre, c'est probablement un genre sphinx, les papillons de nuit qui ont une trompe géante, justement, qui butine en volant sur place. Mmh. Et on a découvert cet insecte bien des années plus tard et on l'a appelé Predicta, qui veut dire il avait été prévu.
Ah, c'est génial. Donc Darwin avait aussi la prescience en quelque sorte.
Quand on dit que c'est un génie.
Quel bonhomme.
Et les poux sont aussi des témoins de l'évolution. Alors ça, pourquoi?
Oui. Bah, il dit qu'on a des parasites en commun avec les animaux, ce qui prouve aussi qu'on a une parenté.
Bah voilà. Oui, ce sont nos parasites, les poux.
Bah oui, oui, oui.
Les poux qui se sont adaptés, il y a un poux par partie du corps en quelque sorte.
Bah quoi. Oui, parce que quand on est sorti d'Afrique, on a été obligé de prendre des vêtements, on a perdu nos poils, donc certains poux sont restés dans la tête, et donc c'est ce qu'on appelle les poux du pubis, les morpions, enfin voilà, chacun est migré, c'est comme dans les îles Galapagos, chacun a son petit territoire, et ça a fait des espèces différentes.
3 € seulement pour s'offrir les 50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin. C'est signé Marc Giraud et c'est publié aux éditions Librio. Tiens, il y a une surprise dans votre livre. Moi, je ne connaissais pas cette histoire. Je la trouve géniale. Marc, ce sont les poissons gauchers du lac Tanganyika. On est en Tanzanie, on va dire ça comme ça. Oui. Il y a plusieurs pays qui bordent le lac Tanganyika. Oui. Mais alors, pourquoi ça ressemble à quoi et pourquoi on les appelle comme ça?
Alors, ça se passe dans les lacs africains. Oui. Et il y a eu un bouquin qui s'appelait Le cauchemar de Darwin qui expliquait ça justement. Un lac, c'est le contraire d'une île. Une île, c'est une terre entourée d'eau, donc les animaux terrestres évoluent. Et un lac, c'est le contraire, c'est-à-dire que tout ce qui est enfermé dans le lac, dans l'eau, explose en espèces différentes. Et dans ces lacs, mais il y a des milliers et des milliers d'espèces qui viennent peut-être d'un seul ancêtre. Donc il y a les férus, par exemple, ou les férous. Il y en a qui mangent des insectes, d'autres des poissons, enfin plein de mœurs. Et il y en a qui mangent uniquement des écailles. Et ils se sont pas seulement spécialisés en écailles, il y en a qui se sont spécialisés pour manger les écailles du côté gauche des gros poissons et d'autres du côté droit. C'est-à-dire qu'il y en a...
Ah, il n'y a pas que des gauchers alors, il y a des droitiers
non,
aussi.
Non, voilà, il y a des poissons qui ont la bouche de travers orientée vers la droite... Et ils ne mangent que vers la droite et d'autres vers la gauche. Et ça, c'est ce qu'on appelle la spéciation. Ça a explosé en espèces différentes, très, très spécialisées.
Marc Giraud, la théorie de Darwin date de 1859. Elle s'est enrichie, notamment grâce à l'ADN.
Ah oui.
Un bond immense.
Ah bah oui, maintenant on sait, l'universel, c'est ce que je vous disais au début, l'universel du vivant, c'est l'ADN, on est tous même une plante. On dit toujours qu'un chimpanzé partage à peu près 99% de gènes communs avec nous, mais la banane c'est 50%. C'est très proche, enfin bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je voudrais pas que les généticiens nous fassent des oui. courriers incendiaires. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est tout à fait ça.
Quand on traite quelqu'un de banane, ça a du sens.
Eh ben oui, on est un peu des légumes
à
aussi.
50%.
Oui, absolument. Et Darwin s'intéressait au côté animal des plantes. Il étudiait les plantes carnivores, justement, le mouvement des plantes. Il étudiait tout ça.
Mmh. On va pas le temps passer avec vous, Marc Giraud.
Merci beaucoup, Marc Giraud. Votre livre 50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin est publié aux éditions Librio, voilà, c'est un grand bonheur.
Et on s'est bien régalé ce soir encore dans la curiosité. Super. Tiens, j'ai une idée, vous allez offrir le lien de l'émission, le podcast de l'émission à un ami et un ennemi. Voilà, faites-vous plaisir et faites découvrir l'émission autour de vous.
Vous écoutez RTL.